Félicitations au groupe de musiciens et au chantre. Hein. Franchement, il y a des belles voix, il y a du potentiel là. Waouh, c'est impeccable pour les églises mélodiques. On les applaudit. Je suis très content d'être de retour dans cette maison. Je crois que j'étais là il y a une vingtaine d'années et j'ai fait une expérience unique dans cette maison. C'est la seule fois dans ma vie où j'ai dormi dans un lit à baldaquin. Je ne sais pas s'il existe toujours, on ira voir après. Hein, ouais. J'aimerais ce matin diriger notre regard d'une part sur Jésus et puis sur l'autre qui est à côté de moi. Lors du Tour de France, Mark Cavendish s'est imposé dans le sprint à Marseille. C'est un moment déterminant pour une victoire d'équipe. Alors un journaliste s'approche, il dit « C'est difficile le sprint ?» Il dit « Écoute, pas vraiment, je devais juste veiller à rester dans la roue de mes coéquipiers et j'ai fourni mon effort les 150 derniers mètres. » Personne ne s'imagine gagner le Tour de France tout seul. C'est impossible. Il faut des grimpeurs, des rouleurs, des sprinteurs. Seul, tu t'épuises. Et je crois que le Seigneur a aussi imaginé pour les siens une victoire en équipe. Pour cela, pour ne pas mourir seul, j'aimerais vous proposer ce matin le titre suivant. Il nous faut vivre en Jésus-Christ comme des partenaires missionnaires. Alors d'abord, en Jésus-Christ. Pourquoi en Jésus-Christ ? Vous connaissez tous ce verset, 1 Corinthiens 1:30. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Paul utilise ici une de ses expressions favorites, en Christ. Regardez, si vous avez la Bible ouverte, il l'utilise déjà un peu plus haut pour caractériser les Corinthiens. Au verset 2, il dit « Ce sont des sanctifiés en Jésus-Christ ». Au verset 4, « Ce sont des graciés en Jésus-Christ ». Au verset 5, « Ce sont des comblés en Jésus-Christ ». En fait, cette expression décrit donc l'union du chrétien avec Jésus. La traduction du Semeur, d'ailleurs, utilise l'expression « dans l'union avec Jésus-Christ » pour traduire « en Christ, en Jésus ». Alors, que signifie-t-elle? Réfléchissons d'abord un peu à cela. L'union avec le Christ, ou être en Christ, est en fait une expression qui résume plusieurs facettes de la relation entre le croyant et Christ. Relation par laquelle nous jouissons de toutes les bénédictions du salut. Alors, c'est d'abord une relation qui a été pensé par Dieu avant la création de la planète bleue. En Christ, dit Éphésiens, Dieu nous a choisis avant la création du monde. Il nous a appelés à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité, Timothée. Puisque nous n'existions pas avant la fondation du monde, ces versets indiquent que Dieu, regardant à l'avenir et sachant que nous existerions, a pensé à nous. Il nous a vus comme ayant un jour le droit de jouir des bénédictions de l'œuvre de Jésus. Ma femme s'appelle Marianne, on était ensemble au collège et plus tard, quand je l'ai épousée, j'étais d'abord amoureux de sa sœur, mais enfin, finalement j'ai épousé la plus jeune. Et elle m'a dit, mais j'étais déjà amoureux de toi en sixième. Waouh, j'étais content qu'elle m'aimait depuis la sixième. Mais quelle source de reconnaissance que de prendre conscience de la durée de l'amour de Dieu. Quelle source d'assurance que de comprendre que depuis si longtemps, Dieu a voulu mon salut. C'est lui qui a pris un jour l'initiative d'entrer en relation, qui a conquis nos cœurs par son amour immérité. Que dire sinon merci mon Dieu. Donc une relation imaginée, pensée par Dieu avant que le monde existe. Deuxièmement, c'est une relation qui permet aux croyants de bénéficier des fruits de l'œuvre de Jésus sur terre. Ça veut dire que tout ce que Christ a fait comme notre représentant, on pourrait dire que Dieu l'a mis sur un compte réservé aux futurs croyants. Bien sûr, nous n'existions pas. C'était uniquement dans les pensées de Dieu que les croyants étaient présents en Christ. Mais comme il nous a vus en Christ, il pouvait aussi voir nos péchés comme appartenant à Christ. C'était des péchés que nous n'avions même pas encore commis, mais Dieu les connaissait à l'avance et les regardait comme ceux de Christ. Il était donc juste qu'un jour que Christ meure pour nos péchés, pour porter nos péchés en son corps sur le bois, dit Pierre. Et ceci est vrai pour tout notre être. Dieu nous voit morts, ensevelis, ressuscités et élevés avec Christ dans la gloire. Je donne un exemple pour l'illustrer. Au Royaume-Uni, le prince William et son épouse Kate attendaient la naissance de leur enfant vers le 13 juillet, je crois, 2013. De sexe masculin ou féminin, cet enfant régnerait un jour sur le royaume. Il n'était pas encore né, mais tant de choses avaient été préparées pour lui. Il a d'abord existé dans la pensée des parents. Il a ensuite été conçu par eux, et les préparatifs pour sa naissance ont été faits. D'ailleurs, ils ont mis plus d'un million d'euros dans le nouvel appart où ils allaient habiter. Je veux dire, c'est disproportionné comme investissement. Mais Dieu, dans sa grâce, a fait bien plus pour nous alors que nous étions encore des pécheurs rebelles. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Quelle grâce! Tout cela pour nous dire que nous sommes des enfants de Dieu désiré, que Dieu aime depuis longtemps. Par amour pour nous, il a donné son Fils unique. Ne laissons pas l'épreuve ou l'inaction apparente de Dieu nous faire douter de la bienveillance de Dieu. Il nous aime d'un amour éternel. Mais l'enfant ne sera héritier qu'à sa naissance. Il en est de même pour nous. C'est une relation dont le bénéfice ne devient effectif qu'à notre nouvelle naissance. Une fois que nous existons dans ce monde, notre union avec Christ ne peut plus seulement rester dans la pensée de Dieu. Nous devons entrer dans une pensée réelle avec Christ pour que le Saint-Esprit puisse nous appliquer les bénédictions que Dieu a préparées. Alors quand le transfert se fait-il sur notre compte ? Écoutons ce que Paul dit aux Colossiens. « Étant unis à lui, vous avez aussi eu part à une circoncision qu'aucune main humaine n'a accomplie, à celle que demande le Christ, et qui consiste à vous dépouiller de votre nature pécheresse avec ses instincts mauvais. Dans votre baptême, vous avez été ensevelis avec le Christ, et étant unis à lui, vous êtes vous-même aussi ressuscité avec lui. » Et puis il y a la réponse, « par la foi dans la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Il parle ici d'une circoncision, d'une coupure, non pas extérieure du prépuce, mais d'une rupture intérieure avec le péché. Et cette rupture qui illustre la repentance, c'est-à-dire le fait de rompre avec tout ce qui déplaît à Dieu, est aussi représentée par le premier mouvement du baptême, par immersion. Descendre dans l'eau, être recouvert par elle, ressemble à quoi ? Un ensevelissement, un enterrement. C'est une rupture avec la vie d'avant, sans Dieu. Le fait de ressortir de l'eau illustre la naissance à une vie nouvelle, une résurrection. Donc comment se fait cette rupture avec la dictature du péché et la réception d'une vie nouvelle ? Par la foi dans la puissance de Dieu, par la foi en Christ, répond Paul. Au moment où nous mettons notre confiance en Jésus mort et ressuscité, le Saint-Esprit opère ce changement en nous. Lorsque par un acte de foi, j'unis mon destin à celui de mon Sauveur, mort et ressuscité, la puissance de Dieu, celle qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, opère en moi une transformation et me donne la vie éternelle. Je nais d'en haut, je nais le Saint-Esprit. Chez moi, ça s'est passé un soir de 1969. J'assistais à une rencontre d'évangélisation dans le petit village où j'habite, à Schinratheim, et Dieu m'a saisi ce soir-là. Mes yeux se sont ouverts. Et je n'ai pas compris tout ce qui se passait en moi. Mais après, en lisant la Bible, j'ai découvert que Dieu m'avait fait naître de nouveau ce jour-là. Cette connexion avec Dieu permet d'adopter un comportement qui plaît à Dieu. Depuis que je suis né de nouveau, et vous aussi j'imagine, se développe en moi une volonté de plus en plus ferme de répondre HS, hors service, lorsque l'ancien dictateur, le péché, veut de nouveau se servir de moi. Le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, lorsque nous croyons, nous offre alors sa maîtrise, son énergie pour résister à toutes nos tendances naturelles. Par exemple, la soif de voir et de posséder ce qui attire nos yeux. L'orgueil inspiré par la richesse et la puissance. Unis à Christ, nous sommes une nouvelle création et nous cherchons à présent les réalités d'en haut. Avec sa force, je peux chercher et poursuivre d'autres objectifs que les gens qui m'entourent. Il dit par exemple à Timothée, l'apôtre Paul, que nous devons traquer tel un chasseur la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, la fidélité, l'amour, enfin toute une série de vertus qu'il énonce. Alors comment ce changement de comportement progressif à la ressemble de Christ devient-il possible? Parce qu'à notre nouvelle naissance, nous sommes incorporés en Jésus, greffés en lui. Ses richesses deviennent les nôtres. L'enfant royal qui est né va bénéficier de tous les bienfaits de son nouveau statut. Je veux nous rappeler ce matin que nous sommes unis à Jésus, associés à lui. Et parce que nous avons cette association, nous pouvons résister à cette tendance au mal qui colle à notre peau. Si je regarde ce gant, si je le livre à lui-même, quelle est la direction qu'il prend? Il descend. Il n'est pas très utile tel qu'il est. Tant que nous ne sommes pas nés de nouveau, la tendance naturelle, c'est d'aller vers le bas. Et mon ancienne nature, franchement, je suis toujours tout aussi égoïste, tout aussi pervers, tout aussi méchant que je l'ai été au départ. C'est ma tendance naturelle. Et je suis incapable de changer. Mais quand la main rentre dans ce gant qui a tendance à tomber peut monter et il peut devenir utile. Quand le Christ nous habite, nous avons la force de dire non à la tendance naturelle. J'ai prêché la semaine dernière dans une église. À la fin, un frère vient et dit, écoute, chaque fois que j'ai un problème, ma première tendance, c'est de rentrer, d'aller sur un site porno et de me faire plaisir. Comment j'arrive à dire non à cette force? C'est parce que le Christ habite notre vie que je peux me lever et reprendre le combat et dire non, je ne resterai pas couché. Je peux tomber, mais je reprends, je fais la guerre à ce mal qui me colle à la peau. Il y a une puissance de résurrection, la puissance de l'Esprit de Jésus qui nous habite et qui nous donne la force de dire non aux tendances naturelles. Ensuite, c'est une relation qui nous permet de servir Dieu avec une énergie nouvelle, dont nous étions privés avant. Le Saint-Esprit nous pousse à dire « à ton service, Seigneur » et il nous qualifie pour le service. On apprend alors à faire l'expérience, jusqu'à un certain point, de la puissance du royaume dans notre service. C'est avec la puissance de Dieu qu'on sert. Quand je pars prêcher quelque part ou faire de l'évangélisation, je pars souvent pleurant, je me sens misérable et tout ce que tu veux. Mais je dis, Seigneur, je me confie en toi, ta puissance. L'apôtre Paul dit cela très souvent. Par exemple, dans Romains, il dit, Paul dit la vérité en Christ. Quand il parle, c'est en Christ. Il est fier de son travail d'implanteur d'église en Christ. Il espère dans le Seigneur Jésus, envoyé Timothée. Il exhorte les chrétiens en Christ et il leur dit que leur travail dans le Seigneur n'est pas vain. Nous agissons, nous servons par la force de Christ. J'ai fait beaucoup de séjours de vacances, d'ailleurs il y a ici une participante, Et je me rappelle d'un camp de cyclotourisme aux Pays-Bas. Beaucoup de vent, parce qu'il n'y a pas beaucoup de montagnes. Donc le vent de la mer arrive jour et nuit. Et nous luttions sur nos vélos pour avancer, parce que nous avions les ponchos, il pleuvait. Et on tirait sur nos guidons, appuyant sur nos pédales. Et qu'est-ce que je vois pas à ma gauche ? Une vieille mémé, haut perchée sur son vélo, qui me dépasse avec l'aisance d'un coureur de Tour de France. J'étais dégoûté. Mais comment elle fait ? Je dis à celui qui est derrière, allez, on y va, on va prendre son sillage, on la suit, on la suit, on la suit. Et quand je me rapproche, ouf, je vois qu'elle avait un moteur électrique sous la tête. Ouf. L'orgueil était top, non, je rigole. Mais ce jour-là, j'ai compris un peu mieux ce que voulait dire l'assistance du Saint-Esprit. La présence de Dieu ne nous évite pas de peiner, de pédaler, de lutter, de travailler, mais nous le faisons avec le secours de son esprit. On le fait conscient de notre faiblesse, mais en se confiant en sa puissance. Je vous avais dit, le regard sur Jésus, je voulais vous rappeler, nous sommes connectés au Seigneur. Et tout ce que nous pouvons faire et vivre, et toute notre capacité à être différent, vient de cette connexion. Mais c'est aussi une relation qui nous concerne collectivement, qui connecte les chrétiens entre eux. Puisque Christ est la tête du corps qui est l'Église, tous ceux qui sont unis à lui sont aussi liés les uns aux autres. Romains 12. L'Église nous apparaît, vous le savez, dans le Nouveau Testament, sous au moins deux formes. Aidez-moi. L'Église universelle et puis les Églises locales. L'Église universelle est l'ensemble des croyants rachetés de tous les temps et de tous les lieux. Et puis il y a l'Église locale, qui est l'ensemble des croyants rassemblés en un lieu donné, à un moment donné. On retrouve ça, par exemple, dans son dialogue avec Pierre, au sujet de son identité. Jésus renvoie au projet de Dieu d'avoir une assemblée qui lui appartienne en propre. Jésus lui répond, « Je bâtirai mon Église. » Ce sera une communauté, sans limite géographique ni temporelle. Et un peu plus tard, dans le même livre, envisageant une situation de péché à régler, il demande de le dire à l'Église. Bien sûr, ils ne vont pas faire un mail à l'Église universelle, mais c'est de le dire à l'Église locale. Et cette distinction entre Église locale et universelle est légitime et utile. Elle rappelle aux petits groupes de croyants leur insertion dans une réalité qui les dépasse de loin. Et c'est important de s'en souvenir quand on est 15, 20, 30 dans une ville. Je fais partie d'une grande famille qui existe dans le monde entier. Et puis, ça rappelle aussi aux unions d'églises de grande taille, en fait, elles ne sont pas l'Église universelle, elles ne sont qu'une partie. Et dans l'Église, les liens de la communion fraternelle sont tellement forts que Paul recommande aux chrétiens, par exemple, de ne se marier qu'avec quelqu'un qui est aussi dans le Seigneur. Dans cette Église, les divisions raciales, les considérations de rang, qui sont monnaie courante dans la société, doivent se gommer progressivement. Ouvriers, patrons, hommes ou femmes, ont tous la même valeur aux yeux de Dieu. J'étais dernièrement dans une église où il y avait 16 ethnies différentes. Ça change des églises alsaciennes. Et c'est bien. Et c'est tout un apprentissage, hein, parfois, d'intégrer toutes les cultures et de ne pas faire de différence. Et de pouvoir accepter quelqu'un qui vient avec son long pantalon de skate ou je ne sais pas quoi. Enfin, pense à un frère ancien de l'église où je suis, qui un jour a dit à ce jeune, écoute, on ne vient pas avec un tel pantalon au culte. Enfin, il n'est plus jamais revenu. Moi, j'aurais préféré qu'il revienne avec le même pantalon. Hein. Mais l'analogie la plus audacieuse se trouve dans la bouche de Jésus. Quelqu'un l'a prié avant. Il prie pour que les croyants soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous. Alors, c'est intéressant. Jésus demande que notre unité soit l'image de l'unité parfaite qui existe entre le Père et le Fils dans la Trinité. Mais l'image nous montre que l'union avec le Christ n'engloutit pas nos personnalités individuelles. Malgré l'unité parfaite et éternelle qui lie le Père et le Fils et le Saint-Esprit, il reste des personnalités distinctes. Unis en Jésus, nous restons des personnes distinctes, chacune avec ses dons, ses intérêts, ses responsabilités, ses préférences, ses cercles de relations. Mais l'enjeu de cette unité dans la diversité est énorme. Et c'est quelque chose qui m'interpelle. Parce que l'apôtre Jean dit que l'unité démontrée dans nos relations fraternelles permet au monde de croire que Jésus était l'envoyé du Père. Alors ça m'interroge. Si les Français ont tellement de mal à croire que Jésus est l'envoyé du Père, le Messie, est-ce que nous avons une part de responsabilité? À cause de l'énormité de cet enjeu, je crois que le diviseur essaye d'affaiblir la relation qui existe entre nous par notre relation avec Jésus. Lorsqu'un conflit éclate dans l'Église ou dans le couple, l'ancienne nature a triomphé de l'un ou de l'autre, et souvent des deux. Et les conflits démarrent souvent par le moyen d'un petit organe mobile, très musclé, de 10 cm de long. Il nous permet de déguster, grâce aux papilles gustatives, le fondant exquis d'un millefeuille, mais il a aussi la puissance destructrice d'une allumette dans une pinaise desséchée. Je parle bien sûr de la langue. Et ça me frappe, quand on circule dans les églises, je me rends compte que la langue est souvent ce que le malin arrive à utiliser. Par mes paroles calomnieuses, c'est terrible, je peux contribuer à l'action satanique. Lorsque Paul écrit à Timothée que les femmes doivent être non médisantes, il dit littéralement qu'elles ne doivent pas être des diablesses. Elles ne doivent pas calomnier. Et nous les hommes, nous sommes taillés dans le même bois. Il faudrait nous encourager à refuser d'être un instrument entre les mains de l'ennemi qui veut séparer les couples dans l'Église, les familles et les églises. Vous connaissez tous des situations comme ça. Donc c'est une relation qui nous connecte entre nous. Et vous tenez encore un peu? Hein? Alors j'aimerais encore un peu développer cet aspect, montrer que nous sommes vraiment des partenaires. En Jésus-Christ, nous sommes des partenaires. Alors pour décrire la relation qui existe entre Jésus et les chrétiens, et les chrétiens entre eux, Paul utilise un autre terme, c'est le terme communion. Et en 2010, quand j'ai étudié le terme communion dans le Nouveau Testament, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vision et influencé ma manière de diriger la mission France pour Christ. 1 Corinthiens 1, verset 30, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à... » Réfléchissez avec moi, à quoi il nous a appelé ? À la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. En Corinthiens 10, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Alors je ne sais pas ce qu'évoque le mot communion pour vous. Quand je pose la question aux jeunes, c'est un moment agréable autour du feu de camp, où on chante, on se sent en communion. En fait, dans le Nouveau Testament, la communion n'est pas d'abord un état d'esprit ou une question de sentiment. C'est une réalité objective donnée par Dieu. C'est une mise en commun, une entrée en association. Paul dit aux Corinthiens, vous avez part au Fils, vous êtes en association avec lui, vous avez un contrat de partenariat qui stipule qu'il y a mise en commun des ressources. Alors en dehors du Nouveau Testament, le mot est utilisé pour trois choses dans le grec. C'est pour le partenariat d'affaires, c'est une communion. Pour le mariage, deux personnes s'épousent pour avoir la communion, c'est-à-dire la mise en commun dans leur bien. Et puis on l'utilisait encore pour la relation avec Zeus. Mais je reviens au texte biblique. La deuxième citation que je vais faire fait référence à la Sainte Cène. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Donc lorsque nous buvons la coupe, en mangeant le pain rompu, nous affirmons d'une part notre adhésion à Jésus. Le corps désigne certainement d'abord le corps de Jésus cloué à la croix. Mais en écrivant dans le verset suivant que nous sommes un seul corps, Paul montre que l'Église, corps du Christ, est aussi présente dans son esprit. Donc, lorsque nous prenons la coupe et le pain, nous déclarons par cet acte que nous sommes en communion avec lui, mais aussi avec son corps, qui est formé de tous les croyants. Et pour décrire cette communion, il utilise l'expression « participer à un même pain ». Nous avons tous part à la même miche de pain que l'on rompt et qu'on distribue. L'adhésion individuelle à Jésus associe les adhérents entre eux. Au travers de Jésus, nous sommes et nous devenons interdépendants. L'Église est vraiment une société en participation. Donc nous sommes de familles différentes, des départements différents, nous avons des parcours et des instructions différentes, mais grâce à notre communion avec Jésus, nous sommes des associés, des partenaires, que nous ne le voulions pas, on ne choisit pas sa famille. Nous poursuivons des intérêts communs, la gloire de Dieu, la constitution de l'Église de Jésus-Christ, avec des membres originaires de toutes les ethnies. Je trouve que nous pouvons apprendre de nos frères et sœurs étrangers qui travaillent en France. Il nous semble parfois que 50 ou 100 kilomètres qui séparent deux églises locales sont infranchissables. Mais ils nous apprennent que l'on peut franchir des mers, des barrières linguistiques, financières, des limites d'âge pour venir en aide à des frères et sœurs en France. 29 de nos ouvriers à France Pocris sont d'origine étrangère. Des Chinois se préparent pour venir en Europe. Les Africains viennent évangéliser la France. Ils payent un prix pour nous aider à remettre le Seigneur à la première place dans notre pays. Et leur solidarité met à nu mon individualisme français, ma vision étriquée de l'Église qui dépasse trop peu souvent celle de l'Hexagone. Cet été, durant Bouge ta France Meuse, on a bénéficié de l'apport de Belges, d'Espagnols, de Néerlandais, d'Allemands, de Suisses, d'Américains, de Québécois. À France pour Christ, par exemple, nous voulons oublier le concept un missionnaire ou un pasteur par église. Nous travaillons à ce que les permanents de la mission se considèrent plutôt comme une équipe mobile pour une région. Ensemble, ils sont affectés à un pôle pour lequel doit jouer la solidarité et la complémentarité des ministères. Et nous prions pour que, entre églises locales, avec leurs anciens, leurs diacres, qui eux ont un ministère plutôt sédentaire, la même dynamique se développe. Alors elle peut se concrétiser par une identité commune de toutes les églises d'une même union, mais avec des fonctionnements différents selon les pôles. En Jésus-Christ, nous sommes des partenaires. Et je termine avec cette dernière idée. En Jésus-Christ, nous sommes des partenaires missionnés. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. J'ai dit plus haut, le terme de communion, association, était utilisé pour des partenariats commerciaux pour le mariage. Et ces partenariats visent un objectif de multiplication, d'extension. C'est aussi le cas dans l'Église. Notre partenariat doit servir l'extension du royaume de Dieu, la multiplication de disciples et d'églises locales. C'est ce que écrivait Jean dans son épître. Ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons. Pourquoi? Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Jésus avait réuni une équipe autour de lui durant 3 ans. Leur relation avait été renforcée à la Pentecôte par la venue du Saint-Esprit. Mais à présent, le cercle des invités devait s'élargir. La communion ne devait plus se limiter à eux. Elle doit être proposée à toutes les nations. Des hommes de toutes les ethnies entreront en partenariat. Et cela se passe au moment où la bonne nouvelle est annoncée, l'appel de Dieu retentit. Alors c'est intéressant, je vous encourage à le faire. Si vous étudiez le mot communion, où on le trouve dans le Nouveau Testament, vous verrez par exemple, on ne le remarque pas forcément tout de suite, que cette communion, ce partenariat, s'exprime par exemple par la participation à l'Évangile. Je vous explique. Philippiens 1, verset 5, écoutez et puis dites-moi où il y a le mot communion. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Il y a le mot communion dans l'original là-dedans. Prendre part, être associé, prendre part. Verset 7, dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participez tous. De nouveau le même terme. Les verbes prendre part, participer, traduisent le mot communion. Comme Paul, les Philippiens avaient eu à cœur la propagation de l'Évangile. Comment ils y ont participé, vous vous rappelez? Il y avait une dame notamment qui a joué un rôle important à Philippe, commerçante, Lydie, par l'hospitalité, elle a accueilli l'équipe. Ensuite, le texte dit « il marchait d'une manière digne de l'Évangile ». Le verbe « marcher » signifie « se comporter comme citoyen ». En fait, les Philippiens apprenaient à se comporter dans la cité où ils habitaient comme des citoyens célestes. Faire la différence par notre comportement aide à la propagation de l'Évangile. Et troisièmement, il dit encore qu'il défendait une foi en accord avec l'Évangile annoncé, malgré la persécution de la part des païens. Ils étaient convaincus, comme le fondateur de l'Église, qu'il fallait préserver le modèle des saines paroles reçues afin de ne pas avoir cru en vain. Il y a là une application pour nous. Prenons part à l'évangélisation, chacun à sa manière. Nous n'atteindrons le grand est de la France que si chacun d'entre nous prêche par une vie qui parle. Prêche par une vie qui parle. Et en tenant au quotidien des propos qui ont de la saveur. Ce n'est que parce que chacun dans l'entreprise, dans le quartier, où il est, mène une vie différente, maîtrisée par le Saint-Esprit, avec un langage différent, qui nous permettra de toucher le Grand Est. Si nous pensons que l'évangélisation et le témoignage est réservé à quelques spécialistes, ça ne changera pas en Meuse, ni en Lorraine. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous d'être témoin. Nous ne sommes pas tous évangélistes, mais nous sommes tous témoins, et nous devons avoir des vies qui parlent. En gagner le plus grand nombre passe par en sauver quelques-uns. Donc, adaptons-nous aux gens qui nous entourent afin de les rejoindre par amour pour leur apporter la bonne nouvelle. Souvent, je vois dans les campagnes d'évangélisation, les gens s'imaginent l'évangéliste, c'est d'abord quelqu'un qui parle. Une grande bouche, si vous voulez faire une caricature. Je pense qu'il faudrait lui donner de grandes oreilles. Parce que rejoindre les gens, participe par eux. Demande qu'on les écoute. On a un exemple. Je suis dans le TGV en rentrant de Paris. Une dame s'assied à côté, réservait sa place là. Bonjour madame. Je lui pose 3 questions. Et elle m'a parlé 2 heures. Et tout à la fin, j'ai pu lui dire, une fois qu'elle m'avait expliqué sa vie et tout ce qu'elle allait faire à Strasbourg, tous les problèmes, je dis madame, peut-être que les choses pourraient changer. Si vous donniez au Christ une place qui lui revient, pensez-y. Pas dit plus. Alors elle commence à sortir, puis elle revient vite en arrière et dit, monsieur, je voulais encore vous remercier parce que ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé avec un homme durant 2 heures sans me faire draguer. On fait la différence aussi parce qu'on est et par l'écoute. Il y a très peu de lieux d'écoute dans notre société. Il suffit de tendre l'oreille, les gens parlent. Et quand vous avez écouté 2 heures, parfois vous pouvez glisser juste la parole à propos qui convient. Donc le mot communion, prendre part, notamment l'évangélisation. Ensuite, on le retrouve encore une fois dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 4. Et là, elle est synonyme de participation financière à l'œuvre missionnaire. Vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation. Comment ils ont fait? À plusieurs reprises, ils lui ont envoyé des dons pour subvenir à ses besoins. Philippiens 4, verset 14. Donc, communion fraternelle est synonyme d'échange de biens dans le Nouveau Testament. Ils avaient bénéficié de biens spirituels de sa part. Paul a bénéficié de biens matériels de l'église de Philippe. Et c'est intéressant. Il ne les encourage pas à la libéralité par intérêt égoïste. Il les encourage à donner, étudier une fois le chapitre 4, afin qu'ils portent du fruit. Et fruit est le mot pour intérêt. Leurs dons qu'ils font à Paul, augmenter leurs intérêts sur leur compte céleste. Ça n'a rien à voir avec l'acquisition du salut. Hein. Christ nous a rachetés, il n'y a rien à rajouter. Mais il veut leur dire qu'avec chaque don qu'ils font, leur capital céleste augmente. Chaque verre d'eau donné à un de ses enfants trouve sa récompense. Max, c'est un grand fermier de Ligny en Barrois. Il vient de décéder et il arrive là-haut. Il paraîtrait, d'après la légende, que Pierre l'a accueilli. Et il dit, bien, je vais t'amener dans ta demeure éternelle. Et il passe dans la ville céleste. Et puis, il dit, voilà la maison de ton ouvrier agricole. Il voit une belle maison. Il se dit, waouh, si lui, il a une maison comme ça, moi, je vais avoir un palace. Alors, ils sortent de la ville. Et puis, en sortant de la ville, ils arrivent à une petite cabane misérable. Et Pierre lui dit, écoute, avec ce que tu as envoyé, c'est tout ce qu'on a pu construire. C'est une vague, hein, ne le prenez pas, c'est pas de la cour de théologie que je vous donne. Mais réfléchissons. En temps de crise, le réflexe naturel est d'entasser sous le matelas. Le principe biblique est plutôt, il sera donné à celui qui donne, Luc 6, 38. On ne donne pas parce que l'on a, on a parce que l'on donne. C'est lorsqu'on partage la semence que Dieu promet une moisson abondante. Faire le contraire, c'est se priver d'expérimenter la générosité de Dieu et ne pas lui fournir l'occasion d'être glorifié. Je prie pour que Dieu nous donne la juste vision de la gestion des biens qui nous sont confiés. Rien que dans le quart nord-est de la France, il faudrait implanter 750 églises si on veut une église pour 10 000 habitants. Et Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Mais il nous faut les financer. Nous devons prier pour que l'argent mal utilisé soit réorienté pour l'accomplissement de la mission que Dieu nous a donnée. On veut nous pousser à consommer davantage, nous faire croire que notre bonheur ou notre statut social dépend de ce que nous possédons. Et franchement, parfois nous le croyons. Il est alors normal qu'à la fin du mois, il ne reste rien pour financer la mise en œuvre du plan de sauvetage de Dieu. Mais lorsqu'on dit non à la convoitise, on voyage léger dans la vie. Donc découvrons la joie d'une sobriété pleine de contentement. Un cœur content est un festin perpétuel, comme je suis un bon vivant. J'aime bien ce verset. Un cœur content, c'est un festin perpétuel. Hein? Bon appétit. Ensuite, encore un tout petit peu, la communion est synonyme de partenariat dans l'œuvre de Christ. L'équipe missionnaire est une confrérie de croyants issus et envoyés par les églises. Ils sont unis en fonction d'une vocation particulière commune, implantée à affermir des églises. Alors les membres de cette équipe missionnaire dans le Nouveau Testament sont appelés des associés, des partenaires. Certains apôtres étaient d'abord partenaires de pêche, puis après ils sont devenus pêcheurs d'hommes. Tite, par exemple, est appelé associé ou compagnon, coopérateur, partner en anglais, Kefert en allemand, de l'apôtre Paul. Paul, lui, se dit associé, partenaire de Philémon. Cet esprit de partenariat est important. Et moi, je loue Dieu pour le Conseil national des évangéliques de France qui a vu le jour, parce que c'est un aspect positif qui a été amené par cela. L'esprit de partenariat s'est développé. Parce que c'est cet esprit de partenariat qui nous permet de reconnaître le don de l'autre et nous pousse à faire appel à l'autre, permet de s'entendre sur une stratégie missionnaire dans une même région. Voilà ce que Paul dit des frères de Jérusalem. Ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés comme des piliers, nous ont alors donné quoi ? La main d'association à Barnabas et moi, afin que nous allions, nous, vers les non-juifs, et eux, vers les circoncis. Au lieu de se comporter comme des rivaux, et on est champion pour ça en France, on l'a beaucoup fait. Et quand j'ai étudié ce mot communion, j'ai dû demander pardon à Dieu, et dire, Seigneur, je crois aussi en tant que mission France pour Christ, nous n'avons pas assez l'esprit de partenariat. Et depuis, nous essayons de changer ça. Et ces dernières années, j'ai essayé de construire des partenariats avec d'autres missions, avec d'autres unions d'églises, avec des écoles bibliques, avec des églises américaines, avec des... enfin, plein de monde. En tout cas, Dieu nous a amenés à la conclusion, seul, je n'y arrive pas. Individuellement, aussi en tant que mission, et nous avons dû confesser notre orgueil. Et nous voulons apprendre à vivre comme des partenaires. Et c'est quel cadeau quand on peut entrer dans le partenariat avec d'autres. En Christ, nous sommes partenaires et je veux apprendre comment traduire en vérité et avec discernement cet état de fait. Je dis aussi discernement car la communion n'est pas possible dans tous les cas. Il faut parfois la refuser. Plusieurs raisons dans le Nouveau Testament. Il y a d'une part des raisons doctrinales. Quand il y a un autre Jésus, un autre évangile, ou un autre esprit, on ne peut pas dire oui, on ne peut pas donner la main d'association. Il faut parfois le refuser pour des raisons d'ordre pratique, le péché scandaleux, les divisions, il y a des gens qui créent des divisions partout où ils passent. Celui qui anime toujours des belles discussions, si vous voulez le texte avec tous les versets, je vous le donnerai. Dis-moi avec qui tu marches, et je te dirai qui tu es. Ralph Challis dit dans Explosion de vie, « Celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu est en communion avec tous ceux qui appartiennent à Dieu. Mais il sait distinguer entre le vrai et le faux. Il n'est pas en communion avec les ténèbres. Il ne compromet pas son témoignage, car celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Ce partenariat est important entre églises. Il est aussi essentiel entre les missions et les églises. L'église identifie et laisse partir ce que Dieu a mis à part, tout en restant solidaire de ses envoyés. L'équipe missionnaire implante de nouvelles églises, mais son rôle, c'est aussi d'alimenter la vision missionnaire des églises d'origine, en rendant compte, en revenant dans l'église d'envoi. Et je trouve là, on a vraiment un rôle à jouer les uns pour les autres. Le danger pour les églises, c'est que les besoins locaux crient toujours plus fort que les besoins lointains. On a besoin de tout le monde ici. Je termine. En Jésus-Christ, nous sommes des partenaires missionnaires. Que le Seigneur nous aide à vivre en tant que tels, afin de ne pas mourir seuls, en tant qu'individu, seul en tant qu'Église. Une dernière image qui illustre bien. Parfois les animaux travaillent mieux ensemble que nous. Voilà les questions qu'on va traiter maintenant en groupe. Je te laisse animer la suite. Merci.